Bonjour Monsieur Laborderie.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur OxyWeb.
Merci.
Autour de cette table pour m'accompagner, je reçois deux petits jeunes, en l'occurrence Perrine qui arrive de Sciences Po. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Ensuite Salim qui est stagiaire sur OxyWeb. Bonjour, qui est en Master 1 de journalisme.
Bonjour.
Et aujourd'hui Monsieur Laborderie, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous allons parler de l'histoire de votre commune de Saint-Alban qui a été créée en 1080. Pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots et nous décrire votre commune et son histoire ?
Moi, à titre personnel, je ne suis pas très intéressant. Bon, je me suis intéressé à l'histoire de Saint-Alban parce que j'étais d'abord enseignant à Saint-Alban pendant de très, très nombreuses années que j'ai enseigné l'histoire, et que prendre des documents sur le village même pour fournir aux enfants, c'était une bonne méthode, me semblait-il, de les intéresser à l'histoire. Et à partir de là, de fil en aiguille, voilà, j'en suis venu à écrire ce livre sur l'histoire de Saint-Alban.
Tout à fait. Donc l'histoire de Saint-Alban de 1789 à 1989.
L'histoire ne s'arrête pas à ces dates-là, bien entendu. Ça démarre bien plus tôt et ça se termine. Enfin, ça continue encore aujourd'hui, bien sûr, l'histoire.
Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça ?
Bon, d'abord, rapidement, d'un point de vue géographique, Saint-Alban, c'est une toute petite commune, agglomération toulousaine, sans doute une des plus petites, 426 hectares, située sur la basse terrasse de la Garonne, entre Garonne et Hers-Mort, sur le versant de l'Hers-Mort. Donc voilà, c'est au nord de Toulouse. Dire après que c'était une gageure aussi que d'écrire un livre d'histoire sur Saint-Alban, car quand, si vous traversez le village, pas de monument remarquable. Pas de personnalités remarquables qui ont marqué l'histoire régionale ou française. Donc, j'ai eu plaisir à relever cette gageure, parce que depuis quasiment 1000 ans, vivent et souffrent et aiment des gens sur ces terrains-là. Et donc, il était intéressant de retrouver l'histoire du peuple, finalement, qui a fait Saint-Alban et qui continue de faire Saint-Alban.
Donc on parlait de la création, donc c'est en 1080, c'est bien ça la création ?
Exactement.
Donc, exactement. Au départ, comment ça s'est développé ?
Alors, tout d'abord, moi je me suis basé sur une citation de Fernand Braudel, l'historien du XXe siècle, un des grands historiens français du XXe siècle, pour essayer de trouver une clé de lecture de l'histoire. Je cite, les villes ont autour d'elles, à leur distinction plus ou moins grande, avec une couronne de bourgs reliée et par ricochet à de minuscules villages. Et c'est sur ces enveloppes villageoises immédiates que les villes agissent le plus aisément, même sans trop le vouloir. Elles y déterminent l'orientation des activités, souvent même de refuge aux populations menacées. Et donc, ça m'amène à l'origine. Puisque 1080, on crée une sauveté. Alors, comme on dirait en occitan, quesaco, une sauveté.
Tout à fait. Expliquez-nous ça.
Alors, c'est tout simplement. Enfin, c'est un double objectif. D'abord, c'est une mise en valeur d'un territoire qui était vide de population, ou quasiment vide de population. Et c'est une façon de fixer aussi des populations dont peut-être les villes ont envie de se débarrasser, puisqu'on tombe sous le joug de l'Église catholique, puisqu'on est en terre de l'abbaye de Saint-Cernin. Trois croix vont délimiter un triangle dans lequel toute personne qui est recherchée par le pouvoir judiciaire de la ville peut venir se réfugier, et à partir de là, il est intouchable, bon, puisqu'il tombe sous la protection de l'Église. Donc, il y a cette double vocation, donc de fixer ces populations-là, peut-être et probablement indésirables sur Toulouse, et de mettre en valeur des territoires qui, jusque-là, n'avaient aucune valeur.
D'accord.
Voilà l'origine de Saint-Alban en 1080.
D'accord.
Donc cette sauveté dont on nous dit qu'elle a été éphémère parce que construite sur des terrains plus ou moins inondables, pas très loin de l'Hers, qui n'avait rien à voir avec l'Hers d'aujourd'hui, qui sinuait au fond d'une vallée, c'était très marécageux. Bon,
Et au fur et à mesure du temps, est-ce qu'il y a eu un âge d'or de Saint-Alban ?
Alors, d'âge d'or, non. C'est cette sauveté qui porte un drôle de nom d'ailleurs, Matepézoul. Alors, Pézoul en occitan, ça veut dire pou.
Joli.
Ce qui veut bien dire que c'était une population quand même assez miséreuse, certainement, qu'on avait regroupée ici. Bon, un siècle après, dans les années 1200-1230, on parle du pont de Matepézoul. Donc, ça veut dire que la sauveté continue d'exister. Pont qui est sur l'Hers actuel et sans doute à proximité de celui où c'est celui qu'on trouve aujourd'hui, même s'il avait d'autres formes. Et après, on n'entend plus parler de la sauveté, mais en 1240, on voit construire une chapelle dédiée à Saint-Exupère, qui est toujours le saint de Saint-Alban d'ailleurs. Et cette église primitive de Saint-Alban, c'est autour d'elle, avec son cimetière, que va se développer le deuxième Saint-Alban, qui lui va s'appeler Gaffelase. Encore des résonances occitanes, oui. L'âne, l'âne, donc ça pourrait vouloir dire attrape l'âne, agafo l'âne.
D'accord.
Ouais. Voilà, probablement. Et là, bon, à partir de là, ce village va se développer dans un triangle qui ressemble étrangement, enfin, c'est une hypothèse hein, qui est gratuite, mais qui est la mienne. Ce village va se développer dans un triangle qui ressemble pour moi étrangement à celui où avait vécu la sauveté précédente. Donc, il y a sans doute une continuité avec peut-être disparition plus ou moins importante de la population, mais pas une disparition totale. Voilà. Et ce village va rester sous ce nom-là jusqu'à l'arrivée des barons de la famille du Puget de Saint-Alban.
Quelle période environ ?
Alors, ils arrivent en 1602. Ils rachètent les terres à l'abbaye de Saint-Cernin, qui avait besoin de liquidités parce que les abbayes à cette époque-là étaient... manquaient pas mal de fonds,
ouais.
Et donc vont vendre leurs terres à cette famille qui arrive de Provence, et donc c'est eux qui vont, par lettre patente donnée par Louis XIV à Versailles en 1675, transformer le nom de Gaffelase en Saint-Alban, en l'honneur de leurs ancêtres qui venaient du côté de Puget-Théniers et qui étaient de Saint-Alban. Voilà. Donc cette famille, bon, cette baronnie, va régner sur Saint-Alban donc de 1602 à 1789, où le dernier baron de Saint-Alban va avoir la bonne idée de mourir juste au moment où commence la Révolution française.
Ah, donc il meurt de cause naturelle ?
De cause naturelle, oui, il était né en 1702, donc il était relativement âgé.
Ouais.
Mais tous ces personnages bon, qui se sont succédés, qui ont construit le château, on a quand même un château, qu'ils ont construit ça en 1600, dans les années 1617-1615, dont il reste une aile aujourd'hui, sur les trois qui existaient à l'origine, bon, qui est une propriété privée. Malheureusement, j'aurais bien aimé que la mairie le rachète et que ça devienne un lieu public, mais bon, ça ne s'est pas fait. C'est ainsi. Donc voilà, c'est le seul bâtiment que nous ayons.
Ça reste protégé quand même, non, ou pas ?
Même pas.
Même pas ?
Même pas.
Ça veut dire que demain, ça peut être détruit ? Et on n'a plus d'histoire de...
J'en ai peur. Ou alors c'est récent, si ça a été fait. Non, à ma connaissance, il n'y avait pas de local protégé.
D'accord.
Et comme il n'est pas classé, je ne crois pas qu'il soit classé non plus. Donc, mais à vérifier.
Et par rapport à la Révolution, comment Saint-Alban va traverser cette épreuve ?
Alors, d'abord, Saint-Alban... Alors, on a une image beaucoup plus précise. On nous dit en 1789, au moment où le dernier des barons va mourir. Alors, pour l'anecdote, il vivait à Versailles, il avait une femme soi-disant très belle, ce qui lui a coûté sa fortune. Ah. Voilà. Donc, ce dernier baron mourant, on a un village qui compte 30 feux, donc 30 familles qui vivent à Saint-Alban en 1789, pour autour de 150 habitants à peu près. Donc, c'est un petit village. Et qui va le demeurer pendant très longtemps. Au moment de la Première Guerre mondiale, la population est autour de 170 habitants. Donc c'est assez stable. Voilà. Et c'est un village dans lequel on trouve quoi ? Ben, de l'élevage, de la vigne. Il y a quand même 30 hectares de vigne
à
cette époque-là. Oui, il fallait abreuver les Toulousains. Ouais.
La violette ?
Non,
pas de violette.
Là. Non,
d'accord.
Du blé, du seigle, de l'orge, du chanvre. Et on voit les débuts du maïs et de la pomme de terre arriver. C'est les tout débuts. Voilà. Donc c'est une agriculture vivrière qui d'abord permet de l'élevage également, il y a pas mal. Donc c'est essentiellement tourné vers la consommation locale, et on ne va exporter sur Toulouse que ben, les surplus qu'on va vendre à Toulouse. Mais c'est peut-être quand même aussi pas aussi pauvre que ça n'a l'air, puisque la Révolution française, ça va être aussi l'époque des réquisitions.
Ouais.
Donc, réquisition des jeunes pour partir dans les bataillons
au front.
Il y a au moins trois jeunes de Saint-Alban qui sont réquisitionnés pour partir au régiment de la Haute-Garonne. Réquisition d'attelage avec charrette, les bœufs, les charrettes, les chevaux. Réquisition de nourriture nombreuse, notamment de chanvre. L'armée devait en avoir besoin. Mm-hmm. Et de salpêtre.
Et de salpêtre.
Oui, mais il fallait fabriquer des explosifs avec. Et oui. Voilà. Et c'est le moment où vont déjà émerger des familles qui vont rester importantes à Saint-Alban jusqu'à aujourd'hui. Ils ont encore des descendants. Il y a deux familles, notamment la famille Fleurian, qui a encore des descendants, même si le nom a disparu aujourd'hui, mais des filles nées Fleurian, qui vont fournir le premier maire de Saint-Alban en 1792, le premier instituteur en 1830, dans des familles qui ont marqué l'histoire locale.
D'accord.
Et quelque chose d'extraordinaire, on ne retrouve pas trace de la suppression du nom. Quand on s'appelait Saint-Alban pendant la Révolution, tous les noms qui commençaient par Saint étaient supprimés.
Mmh. Et il n'y a pas eu de suppression. Elle a disparu. La suppression a disparu.
En tout cas, je
pourquoi,
j'ai
comment,
beau on rechercher, on n'en a pas trouvé trace. Je n'en ai pas trouvé trace et personne n'en a trouvé trace à ce jour.
D'accord.
Alors, bon, c'est une petite communauté villageoise, bon, des 150 habitants, 30 feux, tout le monde connaît tout le monde. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense qu'ils n'ont pas fait trop de vagues. Les terres du baron ont été saisies, puisque le neveu de Madame Veuve avait eu la bonne idée d'émigrer. Donc, on a mis sous séquestre les biens de cette famille-là, qui ont été rachetés par un général d'Empire, un certain général Pigeon. Non, ça n'a rien à voir avec le pigeon, P-I-J-O-N, donc ça, c'est pas la même écriture, bon, mais qui ne va pas non plus jouer un grand rôle à Saint-Alban. Il y aura des descendants, donc un gendre qui sera maire de Saint-Alban au 19e siècle. Voilà. Donc c'est un petit village, quand même, il y a beaucoup d'indigents, beaucoup de pauvres à cette époque-là, une mortalité extrêmement importante. J'ai quand même me suis amusé à regarder un petit peu. 40% des morts pendant la Révolution française sont des enfants.
Punaise.
40%.
Ah oui, quand même. Hein.
À cause de la faim
Non, non, ils meurent souvent dans les premiers jours de leur courte vie. Voilà, c'est ça.
Et pauvreté, enfin, s'il y a de la pauvreté dans ce village, ça veut dire que tout le monde ne mange pas à sa faim.
Et puis l'hygiène est ce qu'elle est à cette époque-là. On élève des volailles qui sont autour du lit de la femme qui est en train d'accoucher. Quoi.
C'est ça.
Il y a, et 25% sont des femmes en couche qui meurent. Donc, si on compte, ça fait 65% de morts qui sont liées finalement à la naissance, normalement. C'est quand même. On note pas mal de. Plusieurs abandons d'enfants également.
Aussi.
Voilà. On compte qu'on a retrouvé dans un paillis un petit gosse avec un quignon de pain à côté. Voilà. C'est.
Avec une vie quand même relativement courte à l'époque. Hein.
Oui,
c'est vrai que ça fait beaucoup courte. Quand on regarde 40% de la population de décès, on compte des nouveaux-nés.
Oui, c'est ça, dans les deux premières années de la vie.
Ah,
oui.
Ça devait être quand même assez particulier. Hein.
C'est je crois que c'était le cas général de toutes les villes qui encerraient Toulouse. Quoi. C'était un petit peu le cas général.
Et pourtant, même en ayant de l'agriculture, comme vous l'avez précisé.
Mais je crois que c'est plus l'hygiène. Et puis bon, les femmes, je veux dire, c'est triste à dire, mais je crois qu'enfanter jusqu'à ce qu'elles en meurent, quoi, quelque part.
Ouais.
Vu le nombre d'enfants qui mouraient, il fallait faire de nouveaux enfants. Il y a quelque chose de remarquable. Remarquable. Tristement remarquable. Mmh. Dans une famille, pendant la Révolution, la femme meurt. L'enfant meurt à la naissance, dans les six, même pas trois mois suivants, il épouse la sœur de la femme qui vient de mourir.
Ouais, c'est...
Donc, on ne pouvait pas se passer de la femme. C'est violent. Mmh. C'est une réalité. C'est la réalité de l'époque. Hein. Aujourd'hui, ça nous choque.
Oui, oui.
Mais je crois que malheureusement, voilà, il faut toucher du doigt une réalité qui était celle-là dans la région toulousaine. Allez, il y a 220 ans, 230 ans maintenant.
Et comment Saint-Alban justement est sorti de cette période de...
Ouais,
est-ce qu'il y a eu un certain temps de datation au 19e siècle?
Oui, alors, Saint-Alban va être pour une fois confronté à l'histoire nationale. Mmh. Lors de la fameuse bataille de Toulouse du 10 avril, les armées coalisées commandées par Wellington, c'était quand même pas n'importe qui remontait du Portugal, d'Espagne, où on se battait depuis le 12 de mayo de Goya, le 13 de mayo, ça doit dater de
1808.
Oui, c'est ça, 1808. Ouais, donc ça fait 6-7 ans que les armées françaises commandées par Soult, pas n'importe qui non plus, et celles de Wellington se poursuivaient, se battaient. Et donc ça se termine à Toulouse le 10 avril. Mais les armées de Wellington avaient fait un crochet autour de Toulouse. La Garonne étant en crue, avaient remonté la Garonne jusqu'au niveau de quasi Grenade, où ils avaient fait un pont de bateau pour traverser, et ils étaient revenus sur Toulouse, et donc par la vallée de l'Ers, et ils ont traversé Saint-Alban le 9 avril, après avoir réquisitionné pas mal de matériel, de nourriture, ce qui prouve aussi qu'ils n'étaient pas aussi pauvres qu'on le dit quelquefois. D'abord, c'était les armées de Soult qui ont réquisitionné pas mal, puisqu'ils s'étaient enfermés dans Toulouse, et puis c'était les hispano-portugais et portugo-anglais de Wellington qui ont continué à réquisitionner énormément de nourriture, de nourriture, et notamment de pain et de farine. Donc il y en avait, il y en avait. Mais les paysans ont toujours eu l'art de dissimuler pas mal de choses.
Ouais. Heureusement.
Ouais. Ouais.
Et alors, pour répondre à la question, au XIXe siècle, ce qui va marquer l'histoire de Saint-Alban, c'est le conflit avec notre voisin de Castelginest. C'est un conflit qui va permettre finalement à Saint-Alban, quelque part, de se constituer. Alors, donc, on voit le premier bâtiment communal, c'est la maison commune, la mairie, 1840. C'est une petite pièce dans une maison, voilà, qui va servir de mairie, qui restera d'ailleurs mairie jusqu'en 1900. Attendez, laissez-moi réfléchir une seconde, parce que je m'en souviens, je l'ai vu. Ça doit être 1960, voilà.
Allez,
autour de 1960, c'est resté la mairie de Saint-Alban jusqu'à 1960. Donc il y a encore des vues où on voit parfaitement la mairie au centre du village, voilà, face à la place actuelle. Voilà. Donc, ce conflit avec Castelginest va marquer toute l'histoire de Saint-Alban au XIXe siècle. Bon, alors d'abord, il y a un conflit autour de l'église, parce que la vieille chapelle de 1243 n'était que ruine dès avant la Révolution, donc la Révolution n'est pour rien sans disparition. Donc ça voulait dire que les barons de Saint-Alban avaient leur prie-dieu et leur banc à l'église de Castelginest, toutes les familles avaient leur... Et donc, il fallait entretenir l'église de Castelginest. Et, bon, monde de paysans oblige, mais je crois que ça, c'est pas lié au monde de paysans. Quand on peut faire payer le voisin... si on peut faire les réparations, mais sans bourse déliée. Ouais, donc, ça a été des querelles permanentes, on réparait l'église. Oui, mais Saint-Alban ne voulait pas payer parce que c'était machin. Voilà. Donc, ça a été des querelles et des querelles et des querelles. Voilà, permanentes. Et donc, j'ai dit en 1830, c'est sans doute la première école qui est créée dans tout le secteur, 1830. Donc, Fleurien va devenir l'instituteur. Donc, alors qu'il n'y en a aucune, et on voit 5 ans après, Castelginest qui demande une création commune pour les deux villages, alors qu'ils n'en ont pas. On commence. Et je crois que c'est en 1859, alors l'année 1859, on va encore plus loin, la municipalité de Castelginest prend une délibération demandant que les deux villages soient réunis, au bénéfice de Castelginest, bien entendu. Voilà. Et donc, à cette délibération de mai 1859, va répondre immédiatement à une délibération à Saint-Alban en juin 1859, qui va marquer un certain volontarisme, justement, de se doter des bâtiments communaux qui vont créer l'indépendance, et notamment d'une église, à cette époque-là, qui compte. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il faudra attendre une petite quinzaine d'années, 1875, pour voir l'église sortir de terre. Mais il a fallu que quelqu'un donne le terrain, il a fallu qu'une veuve donne 15 000 francs à l'époque pour entretenir l'église. Enfin, voilà, c'est quand même une longue histoire. Le clocher ne sera fait qu'en 1892. Donc voilà.
C'est pas si vieux que ça. Hein.
C'est pas si vieux que ça, non. Le presbytère pour accueillir le curé en 1888, qu'on a réussi à conserver parce qu'il a failli être détruit lui aussi. On y a fait une école de musique aujourd'hui, c'est très bien. Et on verra la première maison d'école sortir de terre, Troisième République oblige, et L'éducation étant devenue gratuite, laïque et obligatoire, on va construire la première maison d'école.
Et ça reste quand même une très belle église. Hein. L'église de Castelginest, moi, si vous avez l'occasion d'y aller, allez la voir. Elle est très, 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 très belle. Très, très bien construite, je trouve.
Celle de ?
De Castelginest.
Ah oui, mais ouais. C'est ancienne, celle de Castelginest, oui.
Ouais.
Contrairement à celle de Saint-Alban, qui est beaucoup plus récente.
Ouais.
Donc, 1884, la première maison d'école. Voilà. Et la place qui l'entourait, avec les très beaux platanes que j'ai connus jusqu'à une époque relativement récente, qu'on a
coupé,
soi-disant malade. Mmh. Voilà. Voilà, donc. Et après, l'essor de Saint-Alban, pour répondre toujours à la question, c'est le virage des années 1880, à partir de 1880, entre 1880 et 1914, où on va voir s'introduire à Saint-Alban quelque chose de nouveau, c'est que les terres agricoles vont devenir des jardins maraîchers. Ah. Et notamment pour la culture de la violette, le fameux emblème de Toulouse qui était produit dans une zone qui va de la Lande, le nord de Toulouse, jusqu'à Saint-Alban. Voilà, c'était la grosse zone de producteurs de violettes. Et il y avait au moins une quarantaine de familles qui produisaient des violettes sur Saint-Alban. Il y en avait en quantité. Et ça c'est le premier virage qui fait que des terres vont être abandonnées au profit de ces cultures-là, qui vont rayonner sur la ville de Toulouse et donc sur ses banlieues comme Saint-Alban jusqu'aux années 60-62. À partir de là, on va voir disparaître complètement la violette. Voilà.
Et justement, là, on arrive à peu près à la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes,
je pense. Quoique petit village, oui. Il y a malheureusement beaucoup, voire monument aux morts de Saint-Alban. Mmh. Voilà, il y a, comme dans tous les villages... Saint-Alban a payé son tribut.
Donc ça a créé une chute démographique.
Ben, une petite chute démographique, mais qui compensait justement par l'arrivée de nouvelles populations qui s'installent. Puisque, pour faire du maraîchage, il faut pas un gros terrain. Mmh. Et c'est à partir, donc, dans l'entre-deux-guerres, on va voir se développer tous ces jardins qui vont donner l'image de Saint-Alban qui est demeurée valable jusqu'en 1975, ce coup-ci. C'est un village rue qui s'étale du Mariel en venant de Toulouse jusqu'au niveau des bâtiments communaux aujourd'hui, des ateliers communaux à la sortie du village, et qui est caractérisé par ce qu'on appelle les maisons toulousaines, qui sont construites tout le long de la route de Fronton, perpendiculaire à celle-ci. Je dis toujours avec un œil sur le jardin et un œil sur la route. Mmh. Comme ça, on surveille un petit peu tout. Et qui a donné son image du Saint-Alban. Donc, en ville, on peut retrouver la même chose à Aucamville, la Lande, toute cette sortie de Toulouse qui était marquée par le maraîchage et la culture de la violette. On retrouve le même type de maison, avec soit en rez-de-chaussée, soit en premier étage, mais typique de... puisqu'on les appelait les Toulousaines.
Oui, tout à fait.
Les Toulousaines qui sont en voie de disparition aujourd'hui, malheureusement. Mmh. Mmh. Malheureusement. Et par contre, après, après la Deuxième Guerre mondiale, on va voir là un double virage qui va s'effectuer. D'une part, l'arrivée de la gare de triage, dite de Saint-Jory, alors qu'elle n'est pas du tout sur le territoire de Saint-Jory. Et donc, avec quantité de cheminots qui vont travailler sur cette gare de triage. Et Saint-Alban va accueillir... ça va devenir une espèce de tradition, on va accueillir tous ces cheminots. Et dès avant 1950, on va sortir de terre les premières cités, la cité Saint-Saulx notamment, qui commence en 1948, et qui va accueillir les nombreux cheminots qui travaillent à la gare de triage. Rappelons quand même qu'à un moment donné, il y avait 600 personnes qui travaillaient à la gare de triage. C'était énorme.
Ah, quand même.
C'était énorme. Et c'est une tradition qui a perduré jusqu'à, malheureusement, aujourd'hui la gare est quasi fermée, donc jusqu'à l'époque extrêmement récente. Beaucoup d'autres cités à destination de cheminots sortiront de terre au cours des décennies. Mmh. Et la deuxième évolution, c'est que ce qui avait marqué, disons, 1880, 1900, jusqu'à la guerre au moins, la violette et l'oignon. On cultive énormément d'oignons. Ces cultures-là, peu rentables, ou en tout cas pas suffisamment rentables pour être poursuivies, toutes ces terres vont être converties pour faire du légume, ce coup-ci. Le mine s'est déplacé à la Lande, là où il est actuellement, alors que jusque-là, c'était à Place Arnaud-Bernard, le marché aux légumes. Donc, tout Toulouse a besoin de légumes frais, et donc la salade, le céleri, le poireau, le haricot vert, etc. Voilà, on va commencer à produire en quantité des légumes. Donc ça, c'est la double évolution, construire et des légumes. Et malheureusement, la première des deux évolutions va l'emporter sur l'autre, Toulouse ayant besoin de terre à construire. Progressivement, à partir de 1975, on va voir disparaître progressivement toutes les cultures maraîchères, ou quasiment toutes, et on va voir fleurir, pire que champignons en automne, les maisons, les constructions, et aujourd'hui les immeubles. Ouais. Voilà, donc c'est... Alors que, disons, de la révolution des 504 d'habitants de 1789, en 1880, on est quasiment au même niveau, et même en 1920, on est quasiment au même... On est à 175 habitants à peu près en 1920. Et par contre, déjà, entre 1920 et 1936, on voit la population doubler. Donc, c'est le maraîchage qui avait commencé à... Ouais. Et après la guerre, alors là, on va voir la population. Si vous voyez sur le livre, il y a un graphique qui monte, comment ça décolle. Ouais, encore, on s'arrête en 1989, là, mais bon, ça a continué. Voilà, et aujourd'hui, on doit être à 6 500 habitants. Je veux dire... Le nombre change quasiment tous les jours, puisque dès qu'une tranche de construction est livrée, donc voilà, ça fait quelques dizaines ou voire centaines de personnes supplémentaires. Je veux dire, aujourd'hui, l'urbanisation de Saint-Alban est réalisée à 80%. Et aujourd'hui, on détruit notamment des vieilles Toulousaines pour construire des immeubles.
Ça m'attriste. C'est vrai que dans toutes les communes aujourd'hui, on détruit les cultures pour mettre au jour des immeubles. Je fais une petite parenthèse vite fait.
Ça dénature un peu.
Ouais, ça dénature complètement. Et ce que dit Monsieur Laborderie, hein, c'est que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est qu'on oublie trop d'où on vient et de laisser quand même de la culture. Je pense que c'est un besoin fondamental pour toutes ces communes. Il faut préserver aussi. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Il ne faut pas penser qu'à construire. C'est...
Ouais. Oui, absolument. On peut que regretter cela, mais bon, c'est...
Ça reste la logique économique.
Oui, et puis un propriétaire qui vend, un promoteur va lui mettre une somme d'argent...
C'est ça.
X est importante sur la table, il ne va pas hésiter, quoi. C'est ce qu'il a envie de vendre aujourd'hui. Puis, voilà, c'est... Donc, je pense que quelque part, ce que disait Brodel se vérifie. Toulouse a imposé progressivement l'histoire à Saint-Alban, ou en tout cas, la canaliser dans le sens qui lui convenait. De la viande, du vin, du grain, puis les violettes qui ont donné le renom à Toulouse, puis des légumes, et puis aujourd'hui de l'espace pour construire. Voilà, cette révolution est terminée, mais nous sommes ici à l'Union, je crois que si quelqu'un fait l'histoire de l'Union, on va trouver à peu près...
Ça va être pire.
Pareil ou pire, ça sera à peu près la même chose. Mais ça sera vrai, je veux dire, de toutes les villes qui sont autour de Toulouse, c'est clair. Alors, quelque part, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va faire la spécificité, l'originalité d'une ville, quoi. Alors, c'est peut-être là que le milieu associatif a son rôle. Alors, je veux dire, à Saint-Alban, comme partout, il y a la pétanque, il y a du football... il y a, je pense qu'on trouve un petit peu dans tous les villages, mais la spécificité Saint-Albanaise, je veux dire, ça a été en tout cas à une époque, puisque ça n'existe plus, c'est un carnaval. Un carnaval, qui avait été initié par un maraîcher, d'ailleurs, Saint-Alban et son gendre, qui débute en 1947.
D'accord.
Donc juste dans l'après-guerre. Et un carnaval qui a eu une renommée régionale. Moi, gamin, je me souviens, il y avait 15-20 000 personnes qui venaient assister au carnaval. C'était bien avant Albi, c'était bien avant, à part Limoux, mais ce n'était pas à la porte à côté, sinon dans la région, il n'y en avait pas d'autres. Et ça avait une renommée considérable, c'était quelque chose.
Ça faisait la spécificité.
Voilà, bon, qui a tenu tant que cette génération a été en vie et qui a eu des maraîchers. puisqu'il fallait avoir aussi de l'espace pour construire des chars. Chaque maraîcher avait son hangar, et pendant deux mois, de janvier à février, début mars, il y avait des équipes qui travaillaient pour construire des chars qui allaient sortir un jour dans l'année.
Du coup, le carnaval s'est maintenu jusqu'à
62-63.
Ah, voilà. Il n'a pas tenu assez longtemps quand même.
Mais après, bon, les maraîchers disparaissant, lieux pour construire les chars aussi, les générations se sont renouvelées, parce que bon, c'était dans les années 45-46, c'était des maraîchers qui avaient déjà un certain âge, en tout cas qui avaient la cinquantaine déjà à cette époque-là, qui ont vieilli, voilà. Et puis la sociologie qui a complètement changé dans un village. Alors il y a eu une tentative, enfin pas une tentative, il y a eu une renaissance dans les années 90. Ça a dû durer 4 ans, 5 ans. Mais aujourd'hui, bon, il y a des contraintes. Bon, dans les années 40, on sortait, on ne fermait pas les routes, il y avait peu de circulation. Je me souviens, on empruntait l'ex-national 20. L'ex-national 20. Aujourd'hui, pour fermer une route départementale, c'est
impossible.
Voilà, c'est des arrêtés, c'est devenu quasiment impossible. Donc il y a des contraintes autres qui font que. Et puis bon, la sociologie, comme je disais, d'un village a complètement changé. C'est triste à dire, on est devenu une cité dortoir aujourd'hui. Donc, pour que les gens s'inscrivent dans des projets comme cela de longue durée. C'est pas simple. Donc ça c'est la première spécificité qui a marqué Saint-Alban. La deuxième spécificité vient d'un jumelage. Bon, alors vous allez me dire, des jumelages, il y en a pléthore quand même. Toutes les villes du secteur sont quasiment toutes jumelées avec une ville italienne notamment. Bon, nous on a l'avantage, on est jumelé avec des Polonais, ça c'est quand même beaucoup plus rare. Mais surtout la spécificité vient d'une manifestation qui est née en 1991, qui elle perdure encore aujourd'hui, et qu'on avait appelé l'école de l'Europe au départ, qui s'appelle aujourd'hui Vivre l'Europe, et qui est, un lieu de rencontre entre le citoyen et des spécialistes de la construction européenne. Donc on amène sur place. Quand je dis des spécialistes, c'est vraiment des spécialistes. C'est le minimum, c'est universitaire. Bon, on a quand même reçu de très hauts fonctionnaires européens. On a reçu, je ne sais combien d'ambassadeurs, je dis bien ambassadeurs, consuls généraux, représentants d'ambassades, présidents du Parlement européen, vice-présidents du Parlement européen, etc. Je pourrais en citer comme ça. On a reçu plusieurs fois l'ancien directeur de la Banque européenne d'investissement.
Ah oui, d'accord.
Il sera encore à Saint-Alban là, au mois de novembre prochain. Donc voilà.
Mais tout ça, c'est grâce aussi, parce que vous ne le dites pas, mais c'est grâce à vous aussi, M. Labourderie, d'avoir pu amener un peu toute cette population sur Saint-Alban. Vous avez eu l'intelligence de faire vivre à travers l'Europe Saint-Alban, et moi je vous en remercie. Vous avez fait un travail qui a été quand même assez colossal, et aujourd'hui on peut vous dire que merci.
Qui avait été commencé avant moi, qui est poursuivi maintenant. Donc voilà, il y a toujours une continuité. Bon, on est reconnu au plus haut niveau européen. On a reçu deux fois le prix de la citoyenneté européenne. 2004-2015, voilà, on est reconnu deux fois au plus haut niveau européen. Aujourd'hui, on a nos entrées au Parlement, à la Commission, à la représentation Occitanie, aujourd'hui à Bruxelles. Ex-Midi-Pyrénées. C'est un des gros marqueurs aujourd'hui. Et je dirais que le troisième, c'est aussi la vie culturelle de Saint-Alban. Depuis les années 70, au travers de ce qui s'appelle le cercle laïque et le foyer laïque d'éducation populaire qui l'a remplacé, il y a eu toujours une activité de danse, de musique, de théâtre qui s'est créée dès le début des années 70. Et qui se poursuit aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir un centre culturel municipal actif, et ça se poursuit aujourd'hui. Ça, c'est aussi un marqueur qu'on ne va pas obligatoirement retrouver dans toutes les villes, ou en tout cas sous cette forme-là. Notamment dans le spectacle vivant, le spectacle de rue, voilà. C'est quand même.
C'est pas mal quand même.
Voilà, ce sont des marqueurs. Mais l'Europe, c'est unique, je veux dire. Quand on reçoit des personnalités, ils disent ouais, mais c'est.
Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant pour l'échelle de Saint-Alban.
Oui. amener des personnalités pareilles qui vont venir débattre autour d'une table comme on est là. Quoi.
C'est valorisant.
Et pour une commune de 6000 habitants, moi je trouve que c'est quand même...
C'est remarquable.
C'est un gros travail, parce que tout le monde ne le ferait pas, et je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires qui ne se déplaceraient pas, et je pense que... Moi, je le répète, je pense que vous y êtes pour beaucoup et que vous avez fait, je pense, un gros travail par rapport à ça.
C'est certain.
Même si vous n'êtes pas seul, mais c'est un ensemble de choses aujourd'hui.
Non, mais ça, ouais. J'en conviens, c'est un énorme travail. Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué que de voir la suite, quoi, se mettre en place.
Tout à fait, oui.
C'est d'ailleurs une de mes inquiétudes aujourd'hui de voir des gens qui vont succéder un petit peu et prendre les choses en main. Mmh. Et on a, pour la même occasion, toujours dans le même cadre, on est à la tête d'un réseau européen de villes jumelées qu'on a créé et qu'on a animé pendant plus de 10 ans. Donc avec des villes portugaises, des villes italiennes, des villes espagnoles, roumaines et polonaises. Donc ça va, on est 15-16 villes à fonctionner ensemble, on a porté plusieurs projets au niveau européen. Voilà, c'est...
Je crois que des Polonais sont venus sur Saint-Alban. Et vice-versa, des Saint-Albanais sont partis là-bas.
Ah oui, plusieurs fois.
Ouais, plusieurs fois. Ouais.
Ça fait depuis 2009. Ils ont dû venir pour la première fois en 2008. On est jumelés depuis 2009 avec eux. Et voilà. Et c'est un... Enfin, moi, c'est un de mes... Je veux dire, de mes grandes satisfactions d'avoir vu l'évolution de nos amis polonais. On est tombé quand même dans un monde de l'après-communisme qui était encore très,
c'est vrai.
Très rigide, très, très figé. C'était plus près du garde-à-vous que des embrassades.
Ouais, ils se sont ouverts.
Et on les a vus s'ouvrir, s'épanouir au contact des uns et des autres. Hein. Voilà, et ça, ça fait partie des récompenses, je veux dire, du boulot qu'on a pu faire. Ouais. Et les Roumains.
Enfin, moi, je dis longue vie quand même à Saint-Alban par rapport à ça, hein, par rapport à l'Europe. Je souhaite une continuité et que ça perdure dans le bon sens et qu'on puisse avoir toujours ce partenariat avec l'Europe et ces pays européens.
Mais en termes de citoyenneté, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que,
très important.
Bon, les jumelages, c'était mettre en contact des populations françaises et italiennes au départ. Ouais. Ensuite, donc, avec des Polonais ou d'autres, c'était participer au fonctionnement de l'Union européenne, avec des gens qui ne savaient strictement rien du fonctionnement des institutions européennes. Donc, l'idée, et c'est mon prédécesseur qui l'a eu, c'était de mettre en place ce qu'il avait appelé l'école de l'Europe, c'est-à-dire amener de la connaissance, de la compétence, de façon que les gens puissent être des citoyens actifs, de vrais citoyens, puisque je rappelle quand même que nous sommes tous des citoyens européens. Le traité de Maastricht nous a fait citoyens européens. Après, on l'utilise ou pas, cette citoyenneté, mais nous le sommes. Et dans certaines circonstances, c'est quand même très, très utile. Donc, l'idée, c'était d'apporter de la connaissance au travers du débat. Et donc, l'idée, c'est... On est parti de quelques universitaires toulousains pour arriver à de très très hauts fonctionnaires européens, hein, c'est voilà, des ambassadeurs ou autres.
C'est pas mal, c'est à noter, oui, effectivement. On peut juste espérer que justement ça soit transmis aux nouvelles générations pour que ça soit pas oublié tout ce travail de longue année.
C'est clair.
Et que les jeunes aussi s'intéressent un petit peu, parce que le seul bémol, c'est que on a des générations qui sont là depuis donc bientôt 30 ans. Qui suivent ça très régulièrement, religieusement, j'allais dire presque. Moi qui suis athée, ça ne me pose pas de problème. Donc, la nuit, c'est de ne pas voir les jeunes générations venir s'y intéresser. Eux, bon, vous qui êtes nés quelque part, européen, qui êtes nés européen, qui êtes nés européen. Et c'est quelque chose qui, contrairement à ce que vous pensez, ça ne va pas de soi. Oui, si on ne le cultive pas, voilà, c'est comme la liberté, c'est comme la démocratie, c'est comme tout. C'est, voilà. Et pour le cultiver, ben, il faut se renseigner, il faut s'éduquer.
Exactement.
C'est ce qu'on tentait de faire. Hein. Voilà, ce qu'on tente toujours de faire. Donc je vous invite au mois de novembre à Saint-Alban pour la 30e session de Vivre l'Europe.
Avec plaisir.
On sera présent. Voilà. C'est sûr.
Voilà.
Qu'est-ce que vous pouvez rajouter, monsieur Laborderie ? J'ai trouvé ça très intéressant.
Oh, sûrement beaucoup de choses, mais...
Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion éventuellement de pouvoir se revoir éventuellement pour ajuster, faire des ajustements, oui, une autre émission. Enfin, ou en tout cas, moi je tiens à vous remercier de votre venue sur OxyWeb. Émission très intéressante. Salim, tu veux conclure ?
Ah, je confirme. Ouais. En tout cas, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Parce que justement, Saint-Alban, on a l'impression que c'est dans la lignée des villages comme en France. Mais justement, ce qui est en rapport par rapport à l'Europe, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et c'était très utile d'apprendre ça.
Ah oui, on dit souvent en plaisantant, nous sommes beaucoup plus connus à Bruxelles qu'à Saint-Alban.
Et, bah justement, on n'imagine pas qu'au premier abord, on nous dit Saint-Alban, ça ne vient pas à l'esprit.
C'est presque vrai.
Et toi, Perrine, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que tu as entendu ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu peux faire une petite analyse ? Est-ce que...
Déjà, moi aussi, je voulais vous remercier d'être venu me parler de l'histoire de Saint-Alban. C'était aussi très intéressant pour moi. Et évidemment, ça me touche aussi. C'est le lien que vous avez avec l'Europe, Saint-Alban et l'Europe, m'a beaucoup plu aussi. Parce que, comme vous le disiez, on est nés citoyens européens. Et ça me touche particulièrement parce que j'ai... J'ai effectivement étudié sur un... Bon, j'en profite pour parler un petit peu de moi rapidement, mais j'ai étudié sur un campus qui se disait européen. Et beaucoup d'étudiants venaient justement d'Europe centrale orientale et j'ai beaucoup discuté à ce sujet de l'Europe, avec eux. Et donc, ça rentre complètement en résonance avec ça. Donc, merci.
Avec plaisir.
Bon, moi, je vous remercie à tous. Merci Perrine, merci Salim, merci Monsieur Laborderie et à très vite sur OxyWeb. Merci à tous.
Ce fut un plaisir, merci.